Alors, le voile de l'oubli. Une question de Denise. Le premier voile de l'oubli est-il enlevé pour tout le monde? Alors, le deuxième voile de l'oubli, on a vu que grosso modo dépendait principalement du niveau de conscience de l'individu. Or aujourd'hui, plus la fréquence s'élève au niveau du Rankya Gaya, et plus ce deuxième voile de l'oubli est perforé, déchiré, etc. Donc ça, déjà de ce côté-là, on est pas mal. Mais il en est de même, bien sûr, pour le premier voile de l'oubli. Le premier voile de l'oubli, eh bien, on va dire que, selon le fameux adage, quand on est un fissuré, la lumière passe. Donc le premier voile de l'oubli est fissuré chez beaucoup, beaucoup de gens. Donc ce qui permet à la lumière de pouvoir venir les frapper là où il faut, c'est-à-dire en leur plein cœur. Donc ce n'est pas parce qu'il est fissuré, déchiré à certains endroits, qu'il l'est pour tout le monde. Parce que ce premier voile de l'oubli est individuel avant tout. Autant le second voile de l'oubli était un second voile, on va dire, surtout collectif. Un collectif dans le sens qu'il est celui de l'humanité. Mais maintenant qu'un certain nombre d'individus ont réussi, on va dire, à dépasser ce stade, eh bien c'est un petit peu comme le trou d'ozone. Vous savez, le trou d'ozone, il y a un rapport, je vous signale. Et ça, bon, les gens disent « Ah, ouais, ceci, ceci, cela ». Mais si physiquement, il y a quelque chose qui... Il y a un gros trou, c'est qu'il y a une raison. C'est parce qu'effectivement, ce deuxième voile de l'oubli, d'une certaine manière, correspondrait à ce voile de l'ozone. Donc, au niveau individuel, le premier voile, c'est d'abord un voile qui est lié à l'ego. Donc, si une personne ne prend pas conscience du pourquoi de l'ego, et du pourquoi il suit l'ego aveuglément, eh bien, il aura toujours un premier voile de l'oubli assez épais. Si par contre, il commence à se rendre compte que, d'abord, c'est peut-être un ego, mais c'est un petit ego, mais en plus, un faux ego, et qu'il commence à se dire, attends, là, mon coco, tu commences à m'émoyer menu dans bien des domaines, eh bien, là, il y a de la fissure qui apparaît. Et comme il y a de la fissure qui apparaît, automatiquement, il a plus de lumière. Et plus il a plus de lumière, plus il est capable de remettre en cause son faux ego. Et donc, plus il remet en cause son faux ego, et plus, en fait, il enclenche le retour à la source. Puisque le but, hein, si vous avez lu mon article d'hier, c'est que quand vous descendez avec un ego dans la matière, mais quand vous remontez, c'est que vous libérez de l'ego. Donc, plus vous faites mal à l'ego, enfin, plus vous transcendez l'ego, parce que vous ne pouvez pas l'ôter en tant que tel. Simplement, c'est votre mental qui fera basculer la chose. C'est-à-dire votre mental, pour l'instant, il est assujetti à l'ego. C'est pour ça qu'on dit le mental ego. Mais plus il va voir que vous êtes sur le chemin du retour, plus il va voir qu'il y a des évidences. Il va dire, oui, mais la lumière, ça fait ceci, cela, je le vois. Je le comprends, et c'est logique. Et plus, à ce moment-là, il va, les plateaux de la balance vont commencer à s'équilibrer pour s'inverser ensuite. Et quand ça s'inverse, le mental, il se dira, ah oui, bon, l'ego, c'était une chose, je comprends c'était quoi son utilité, mais maintenant, il n'y en a plus besoin, parce que moi, en tant que mental, je suis là pour servir l'être, l'entité, qui vit à l'intérieur de ce véhicule, qui est prisonnier à l'intérieur de ce véhicule. Donc, une fois que votre mental, devient un mental et non plus un mental ego, eh bien, à ce moment-là, la partie est gagnée. C'est-à-dire que le premier voile de l'oubli n'existe plus. Alors bien sûr, c'est graduel, on ne va pas vous arracher ça d'un seul coup. Donc c'est chacun de son côté qui va décider de la quantité, on va dire, de fissures dans son premier voile de l'oubli. Et arrivé à un moment, il y aura tellement de fissures que ça va être des lambeaux. C'est des lambeaux d'ego qui vont s'en aller, quoi. Hein? Question d'ego de Caro. Tu parles de l'ego, du faux ego, de ses manœuvres, etc. Mais quelle est sa fonction initiale non détournée dans notre mécanique humaine? Je viens de l'expliquer. L'ego a pour objectif de t'aider à descendre dans la matière, d'aller voir ce qui n'est pas, ce qui n'existe pas. Et après, quand tu auras fait ton expérience, c'est un petit peu comme le voile de l'oubli quand tu nais à travers, on va dire, le passage... Dans l'utérus, on va dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on renaît physiquement, il y a un voile de l'oubli qui se met. Parce que si, dès qu'on ouvre les yeux, on se rappelait les 150 vies antérieures qu'on a eues, on ne pourrait pas être neutre. On pourrait pas être neutre par rapport à l'expérience qu'on doit vivre. Si tu sais que ta mère, c'est celui qui t'a étranglé juste à la vie précédente, tu ne vas pas forcément l'aimer de tout ton cœur et dire « maman ». Donc il y a forcément un voile qui est posé. C'est normal. Ça fait partie de l'expérimentation. Donc, quand nous venons en ce monde, nous venons avec un voile égotique. Mais donc, c'est appelé le petit égo. Parce que le grand, lui, il englobe votre corps de manifestation complet, c'est-à-dire les 12 premières dimensions. C'est-à-dire toute la partie incarnée de votre esprit directeur. Donc le petit ego, c'est celui qui est incarné, mais uniquement dans la matière. Et donc forcément, c'est celui-là qui, normalement, on devrait perforer, et puis après, bon, le reste, ça sera tout seul, quoi. Mais non. Donc l'ego a un objectif, a un but. Il n'est que l'illusion. Et tant que vous êtes dans l'illusion, bah, vous ne sortez pas de l'illusion. Mais dès que vous découvrirez que c'est une illusion, que c'était en fait celui qui allait vous aider à vous sortir de l'illusion, eh bien vous pourrez revenir à la source. Donc l'ego fait bien partie, on va dire, de la mécanique humaine. Passage en 5D, une question de Véro. Tu dis quand dans la dernière RevConf que notre passage en 5D dépendra de notre longévité. Pourtant, j'avais cru comprendre que nous ne passerions pas par la mort physique pour ascensionner. Qu'en est-il? Alors, je répète. Notre corps actuellement est en mutation. C'est-à-dire que nous sommes dans un corps carboné et il devient silicé. Donc, passer d'un corps à un autre ne veut pas dire forcément que tu vas mourir pour renaître dans un corps silicé. C'est simplement une transformation. Et c'est pour ça que nous sommes si fatigués. Plus les vibrations émises par Maman Rantia et Papa Soleil et la galaxie, grand-père Alcyone, et plus nous sommes silicés. D'où une fatigue énorme de notre corps. Car je rappelle que dans chaque cellule de notre corps, il y a un ADN. Or cet ADN a pour objectif de s'adapter à la fréquence qui est émise dans notre environnement. Parce que s'il ne le faisait pas, il y aurait forcément mort, physique. Donc les gens qui ont un corps, on va dire, qui n'arrive pas à s'adapter, parce que tout simplement celui qui est aux commandes ne veut pas le voir. Si on te dit qu'il faut arrêter la malbouffe, qu'il faut arrêter de bouffer du steak, ben, si on te le dit, et puis tu dis, je n'en ai rien à foutre, de toute façon j'irai quand même au cimetière, il n'y a pas de problème, c'est sûr que tu vas y aller. Mais si ton corps te dit, arrête de me donner cette saloperie, qu'est-ce que tu fais? Tu continues, et à ce moment-là, tu vas avoir tous les ennuis du monde, ou soit tu dis, oh là là, non, là, j'ai pas, non, ça me dit plus rien, ça me dit plus rien ce truc-là, et tu laisseras tomber naturellement. Donc il y a deux façons, en fait, de pouvoir élever sa fréquence, c'est celle qui est, on écoute un peu les conseils des autres parce qu'on a un petit peu du jeu et on se rend compte quand même que si on était un petit peu ouvert d'esprit et qu'on pourrait mettre nos plaisirs et désirs un petit peu en arrière pour simplement comprendre qu'à chaque fois qu'on mange de la viande, on est en train de se tuer, on gagne du temps. Mais si vraiment on ne veut rien savoir, parce que ça, c'est à chacun de décider, hein, de voir midi à sa porte, eh bien si le corps il te dit, écoute, si tu continues à bouffer ça, moi, la machine à claque, là. Donc là, tu commences à te dire, ah, là, j'ai mon corps qui tire la sonnette d'alarme, et si je continue, je clapse. Plutôt que prévu. Alors, moi qui voulais avoir des plaisirs et continuer à avoir des désirs, s'il claque dans 15 jours, je vais plus en avoir beaucoup. Alors, on fait quoi? Ben on se dit, bon, allez, ok, je suspends momentanément le temps que mon corps revienne à la normale. Et puis après, ben, je pourrais peut-être vivre encore plus longtemps, donc pouvoir me goinfrer encore plus. Sauf que en ce moment, ceci n'est plus valable. C'est-à-dire que c'est comme un truc à cliquer. Chaque cran qui est gagné ne pourrait pas revenir en arrière. C'est-à-dire que si vous écoutez votre corps, parce que c'est l'ultime, si vous ne l'écoutez pas, de toute façon, vous allez éclater. Donc, vous écoutez votre corps, dire bah, je mange plus de viande, ok. Bah, vous verrez que vous ne pourrez plus jamais y revenir. Tout simplement. Et donc, cliquer par cliquer, vous allez vous faire remettre à l'endroit, comme on dit. Donc, une fois que vous êtes remis à l'endroit, enfin, de plus en plus, eh bien, vous pourrez continuer à monter en fréquence. Aujourd'hui, le corps est là pour actualiser les fréquences de l'environnement. Parce qu'il est là. pour faire que votre véhicule de manifestation, celui-ci là, hein, ce véhicule physique, et puis tous les autres qui s'y a derrière, suivent la musique de l'élévation de fréquence. C'est son job. Le problème, c'est qu'il ne reçoit que des contre-ordres et des contre-ordres de votre part. Donc c'est pour ça que quand votre corps dit « Je suis fatigué, il faut que tu te reposes là parce que j'ai de la réparation à faire », faites-le. Et s'il dit « Ah ben non, il y a un film intéressant, il faut que je regarde, ou voilà, il y a tant de machin truc qui est arrivé, je vais être obligé de lui refaire encore un steak frites parce qu'elle ne connaît rien d'autre. » Bon, si vous êtes dans cette musique-là, c'est sûr que vous allez peiner. Donc il y a un choix à faire. Donc la meilleure façon de ne pas être emmerdé par les autres, c'est déjà de ne pas les inviter. La deuxième, si vous sentez que leur basse vibration vous plombe, bah, c'est pas la peine d'accepter leur invitation. Et ceci, quelle que soit la raison invoquée. Faut savoir mettre les points sur les i. Alors pour cela, c'est vachement simple. Dites que vous êtes fatigué, que vous êtes crevé, que vous n'en pouvez plus, et que vous ne pouvez pas. Puis voilà. Et vous savez, quand on dit qu'on a des ennuis de santé, ça suffit pour dissuader les autres de vous convaincre à venir. Alors si on vous invite à un mariage, à un baptême, à un anniversaire, à n'importe quoi, prétextez toujours. Mais non, là je suis trop crevé, là, je n'en peux plus. Et je peux vous dire que vous ne mentirez pas. Parce que si vous suivez véritablement l'élévation de fréquence, eh bien théoriquement vous devriez crever en permanence toute la journée. Vous devriez passer un temps fou au lit à dormir. Et surtout à ne plus voyager, ne plus prendre l'avion pour aller voir trois montagnes de pierre. Ou... Non, parce que même ça, c'est crevant. Votre corps, vos différents corps, n'aiment absolument pas l'avion. Donc, c'est bête. Restez sur place, ne bougez pas beaucoup, et puis roupillez un max, mangez le moins possible, buvez beaucoup. Et puis, eh bien, les choses se passeront d'elles-mêmes parce que vous permettrez à votre corps de s'actualiser, c'est-à-dire de pouvoir monter en fréquence. Si vous désirez continuer à suivre la voie de 3D en me disant « Oui, mais le mardi, j'ai danse, le mercredi, j'ai sport, le jeudi, j'ai théâtre, le vendredi, j'ai la sortie des enfants, le samedi, faut que je m'occupe de mon mari et de je sais pas quoi, et puis le dimanche, eh bien, c'est les réunions familiales », vous pouvez continuer comme ça, il n'y a pas de souci. Personne ne vous en empêchera. La seule chose qui se passera, c'est que vous le ferez, entre guillemets, aux dépens de votre élévation de fréquence, mais surtout que vous vous rendrez compte que qui n'avance pas recule. Parce qu'aujourd'hui, la marche est forcée. Ah oui, mais là, il me faudra me donner plus de temps, parce que si, parce que ça. Je peux vous dire que pour la galaxie, le temps, ils n'en ont rien à battre. Vous savez, les EDLN, quel que soit le statut, comme les EDL, ils n'en ont rien à foutre de vos problèmes de 3D. Parce que, quand on résume tout ça à un minima, ce ne sont que des illusions. Mais ça, vous le comprendrez encore plus à fur et à mesure que vous avancerez. Parce qu'aujourd'hui, si je vous dis ça, vous allez dire « Ouais, mais il faut quand même payer son loyer, il faut quand même faire ceci, il faut quand même faire cela. » Oui, à un certain niveau, et non, quand tu veux être en 5D6D, ça n'existe plus. Mais ça n'existe plus parce qu'il y a une autre façon de vivre et d'agir. Mais celle-ci, vous ne pouvez pas la choper tant que vous ne l'aurez pas vécu. Et donc, tant que vous ne l'aurez pas vécu, vous pourrez toujours argumenter à fond. Donc à ce moment-là, à quoi bon discuter? Ça ne sert à rien. Bien. Alors, concernant, donc là, je reviens sur Véro, tu dis Nathan, que notre passage en 5D dépendra de notre longévité. C'est évident que plus tu vas écouter ton corps, plus tu vas suivre tes intuitions et tes ressentis, et plus tu vas vivre longtemps. Et plus tu vas vivre longtemps, et plus tu as de chance de pouvoir continuer ton élévation de fréquence. Or, c'est en ce moment que ça se passe. On a un fort vent arrière afin qu'on avance encore plus vite. Et c'est pas maintenant qu'il faut dire non, pause, je vais prendre mon petit déj là sur le bord de la route, et puis je vais piquer mon pillon, puis je verrai plus tard, et puis on verra, et puis voilà, faites pas chier quoi. Pouvez toujours. Sauf que quand vous vous réveillerez, il n'y aura plus personne. Parce que les autres, ils auront tous avancé. Il faut dire, merde, ils sont passés où, là? ADN. Une question de Caro. On entend dire qu'il faut activer ces 12 ou 13 brins d'ADN. Comment et pourquoi faire? Quel lien avec la notion d'élévation de fréquence, ou plutôt élargissement de ces fréquences? Alors, moi, je vous dirais qu'il faut être très fort pour activer ces 12 ou 13 brins d'ADN. Parce que comment voulez-vous, avec votre mental, activer des brins d'ADN alors que vous savez que votre mental est là pour gérer simplement votre survie immédiate dans un environnement. Donc, un. Deuxièmement, c'est complètement méconnaître ce qu'est l'ADN et les 12 brins d'ADN. D'abord, l'ADN que les scientifiques parlent, c'est celui du moteur de la Terre, c'est-à-dire les deux premiers brins. Point barre. Deuxièmement, ils disent que 97% de cet ADN ne sert à rien, que c'est de l'ADN poubelle. Donc, pour vous dire. Alors, imaginez quand vous dites il faut qu'on active les 12 brins d'ADN. On n'est déjà pas foutu d'en activer 3% des deux premiers brins. Alors, comment voulez-vous activer les autres ? Commencez donc déjà, au lieu de jouer avec les 3% des deux premiers brins, de pousser à 4%. Vous allez dire, ouais, mais on fait comment, là ? On fait simplement, suivez vos intuitions, vos ressentis, et quand votre corps vous dit pause, faites pause. S'il vous dit tourne à droite, tournez à droite. S'il vous dit bouffe pas ça, bouffe pas ça. Parce que votre ADN, c'est, un enregistrement, c'est un programme qui joue avec, on va dire, principalement le magnétisme. Or, si vous le savez bien, nous sommes baignés dans la grille magnétique. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe au niveau des Léas, votre ADN, lui, le reçoit. Ce qui veut dire que chaque individu, ce que chaque individu pense et fait, votre ADN l'actualise. Les gens pensent, ils disent, oui, mais moi, je fais mon truc à moi, et puis les autres, ils font toute leur saloperie. Oui, mais sachez que les saloperies que les autres font s'inscrivent dans votre ADN, puisque en chaque être humain, il y a la totalité de l'ADN de l'humanité. Voilà, alors c'est pour ça que ça ne sert à rien de tuer l'autre, ou de le boffer, ou de lui raconter des saloperies, ou n'importe quoi, puisque de toute façon, vous jouez contre vous. Alors on sait que l'ego n'aime que l'attaque. Parce que lui, il veut protéger, il veut mettre ses clôtures à lui. Il dit, ouais, ça c'est ma personnalité, c'est comme ça, si tu viens sur mes plates-bandes, tu vas voir comment je m'appelle. Eh bien, dites-vous bien que si vous réagissez toujours comme ça, eh bien, vous jouez contre vous. Alors, dans un monde de 3D 4D, ça pouvait sembler être parfaitement normal. Or, le problème, c'est que ce monde de 3D 4D est involué au plus haut point. Et c'est celui qui est le plus coupé, le plus séparé de toute la création. Donc, nous sommes au fond du trou. Donc, si vous voulez continuer à creuser le trou, vous pouvez. Mais vous allez, on va dire, terminer au fond du trou, c'est sûr. Si par contre, vous voulez remonter vers la source, c'est comme le puits, quoi. Il va falloir remonter vers le haut. Et remonter vers le haut, c'est arrêter de massacrer de l'humain, aussi bien par vos pensées, que par vos paroles, que par vos commentaires, sur un blog, par exemple. C'est-à-dire que, comprenez que chaque être humain que vous avez en face de vous, c'est vous, mais sous une forme différente. Alors bien sûr, vous allez dire, attendez là, l'autre, attention, moi je suis un homme, elle c'est une femme. Oui, d'accord. Donc le véhicule est différent, on est d'accord. Mais dites-vous bien que votre véhicule, admettons qu'il roule à l'essence, eh bien à chaque fois que vous polluez l'essence du monde entier. Donc vous carburez moins bien. Bien sûr, l'entité qui est dedans, d'une certaine manière, est différente, puisque c'est une partie individualisée du sang. Donc le chauffeur est différent, mais le véhicule est identique. Il réagit aux mêmes choses. Donc tout ce qui s'est passé sur n'importe quel véhicule sur cette Terre est inscrit dans chaque véhicule qui roule sur cette Terre. Alors bien sûr, si je prends cette analogie avec les bagnoles en ferraille, dites-vous bien que notre corps est biologique et que tout ce qui se passe dans notre corps biologique est enregistré dans la grille, on va dire magnétique. Or, notre ADN est magnétique. Comme d'ailleurs toutes les informations qui s'enregistrent sur votre disque dur. Donc, comprenez qu'il y a une mise à jour permanente de votre véhicule et de votre ADN. Donc, maîtrisez vos pensées. Et puis, pensez pas au 10e brin d'ADN, au 11e et puis au 12e. C'est au-delà de vos compétences, c'est au-delà de vos capacités. Seul l'ego, seul le mental ego est apte à raconter des conneries pareilles. Si vous lisez bien, enfin, quelques personnes qui disent « Vous pouvez reprogrammer votre ADN regardez bien. Ils attaquent, on va dire, les deux premiers brins, et puis ça s'arrête là. Ils ne vont pas plus loin. Et ils ne peuvent pas aller plus loin. Imaginez, on est déjà tellement des tarés que si on avait la possibilité de modifier ne serait-ce que le quatrième, le cinquième ou le sixième brin d'ADN selon notre bon désir, mais c'est la création entière qui serait vrillée. Croyez-vous que le sang donc permettrait cela? Est-ce que vous donneriez à un enfant qui est à la maternelle et qui fait ses crises de enfin pas de jalousie, mais tout et compagnie, est-ce que vous allez lui donner la télécommande des bombes nucléaires et de toutes les fusées, des fusées intercontinentales, etc. Non. Donc le système est protégé. Alors ne rêvez pas. Ne rêvez pas d'activer vos brins d'ADN, car c'est la pire des âneries qui puisse exister. Par contre, si vous voulez qu'il se révèle en vous, vous avez plutôt intérêt à suivre déjà ce que les deux premiers bras vous racontent. Hein, c'est-à-dire, toujours pareil, suivez ce que votre corps vous dit, suivez les ressentis qu'il a, suivez les intuitions qui passent à travers. Écoutez vos petites voix. Bon, on revient toujours au même, hein. Mais bon, les gens ne savent pas pourquoi, d'ailleurs. Élever sa vibration, une question de Marie. Tu nous rappelles sans cesse d'augmenter notre vibration, mais peux-tu nous dire concrètement dans le quotidien comment y arriver? Exercice, pensée, comportement au travail, en famille? Eh bien, je crois que j'ai déjà répondu depuis le début de cette conférence. La plus grande chose que vous puissiez acquérir, et qui est, on va dire, une qualité du sang-nom et de la source et de tout ce que vous voulez, s'appelle la paix. Donc, si vous êtes en paix, déjà, mentale, vous allez acquérir la paix du cœur. Et si vous êtes dans la paix du cœur, il n'y a rien qui peut vous arriver. Dans le sens que, si quelque chose vient vous heurter, vous allez regarder ce qui est et dire, tiens, c'est une synchronicité, c'est fait pour me faire bouger quelque chose, quelque part. Très bien, je la regarde pour ce qu'elle est, je vois comment je réagis, et je transmute à ma manière le paquet de merde à la rigueur qui a décollé. Parce que c'est sûr que si quelqu'un vient me taper, un événement vient me taper sur la carrosserie et qu'il y a un paquet de rouille qui tombe, j'aurais pris conscience qu'il y a un paquet de rouille. Et j'aurais pris conscience que la tôle à cet endroit-là, elle est plus d'origine. Hein. Enfin, je veux dire, elle a molli un petit peu. Et donc on se dit, ah oui, je me croyais solide, mais en fait c'était que du flanc. D'accord. Alors, faudrait peut-être que je réduise la voilure, que je roule un peu moins vite, et que peut-être que si j'allais au garage, me refaire faire une petite tôle par-ci, par-là, ou peut-être une après-couche pour l'anti-rouille, ou... Enfin, bref, ça serait peut-être sympa. Voilà, donc, tout ce qui vous sort de votre paix intérieure est sujet, en fait, à évolution. Alors ce n'est pas en le rejetant, c'est en acceptant ce qui est et en se disant « qu'est-ce que je peux faire ?» Voilà, donc vous voyez, et ceci vous pouvez faire, donc il n'y a pas d'exercice particulier ou de pensée particulière, c'est une attitude, un état d'être. Et chacun va à sa vitesse, sachant que maintenant c'est comme si on avait une main posée dans le dos et que ça pousse très fort, donc on n'est plus à la petite marche, peinard, tranquille, hein. On est d'accord. Une question sur le retournement de Denise. Comment fait-on pour regarder à l'intérieur pour se retourner? Eh bien, ça, c'est tout un art. Déjà, ne plus regarder à l'extérieur, enfin, regarder à l'extérieur quand tu conduis, c'est quand même bien, mais c'est-à-dire simplement être plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Parce que le chemin de sortie, il est à l'intérieur, il n'est pas dehors. Dehors, c'est le cimetière. Donc, il n'y a pas chemin de sortie, hein? Puisque poussière, tu redeviendras poussière, donc il n'y a pas de chemin de sortie là. Donc c'est vraiment dedans. Alors le retournement, c'est autre chose. C'est-à-dire que nous avons basé en fait toute notre vision du monde sur nos perceptions basées sur les sens physiques. C'est-à-dire la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher. Le véritable retournement, c'est intérieur. C'est-à-dire que à ce moment-là, vous dites « Ouais, mes oreilles, elles me servent bien sûr à écouter et à entendre des sons. » Mais si vous écoutiez ceux qui sont dedans. La vue, bah, c'est pareil. Vous dites « Ah oui, mais moi, il n'y a pas de lumière, je vois rien, je suis aveugle. » Oui, mais quand vous regardez à l'intérieur, vous pouvez voir tout. Et là, il n'y a pas besoin qu'il y ait du soleil. Concernant les odeurs, c'est la même chose. Dire, oh, ça sent bon, ça sent mauvais, etc. Mais alors, regardez combien vous sentez intérieurement. Est-ce que vous sentez la sainteté ou moins bon? Le goût, est-ce que vous avez plaisir à vous goûter, c'est-à-dire à vous goûter intérieurement? Est-ce que vous sentez que vraiment les plaisirs, enfin, les gens en votre présence ont plaisir à être avec vous? Avez-vous du goût? Ou est aussi fade qu'une volaille, comme dirait l'autre, nourrie à la farine, à l'abri de la lumière et sans plume. Donc, les sens que nous avons, qui sont portés à l'extérieur, ne sont pas, comment dire, ne sont là que pour nous donner une vision d'un monde que nous créons. Il est là pour, comment dire, jouer dans le décor. Mais dans la réalité, tout se joue à l'intérieur. Et donc, en retournant ses sens à l'intérieur, eh bien, à ce moment-là, on découvre que nous pouvons voir l'invisible, que nous pouvons entendre l'invisible, que nous pouvons sentir l'invisible, que l'on peut goûter l'invisible, et que l'on peut même toucher l'invisible. Et donc, si vous êtes capable de toucher l'invisible, afin d'avoir tous ces sens, je dirais, remis en état de marche, eh bien, vous découvrirez que ce qu'il y a à l'extérieur, vous pouvez le modifier comme vous voulez, puisque en fait, c'est vous le projecteur, c'est vous qui projetez tout dehors. Donc, si vous changez ce qu'il y a à l'intérieur, vous changerez forcément ce qu'il y a dehors. Et ça, on l'a toujours dit. Vous ne pouvez attirer l'amour à vous si en vous, vous n'êtes pas déjà amour. Vous ne pouvez pas donner de l'amour que vous n'avez pas. Donc, éclairez-vous de l'intérieur et vous deviendrez un lampadaire pour les autres. Sentez bon à l'intérieur et les gens viendront vous sniffer. Donc, nos sens, on va dire intérieurs, ne sont plus à ce moment-là des perceptions comme celles qui sont extérieures. Elles sont moins sujettes à caution. Alors, dans les débuts, c'est sûr que là, notre mental égo, il ne sait plus sur quel pied danser, on est d'accord. Il va dire, oui, mais attends, la voix que tu as entendue là, c'est qui là? C'est le mental ego qui te la joue ou c'est véritablement un être de la nature qui vient de te parler? Ah, et donc c'est vrai qu'il y a une zone, un moment d'inconfort, jusqu'au moment où progressivement on prend confiance. On prend confiance, on fait confiance. Et quand on fait confiance, eh bien, on découvre que petit à petit, eh bien, notre petite voix, enfin notre petite voix, les voix des autres entités deviennent beaucoup plus claires. Beaucoup plus sûr. Et une des raisons principales, c'est que souvent ils vous disent des choses que vous ne saviez même pas. Donc vous pouvez dire comment mon mental ego peut dire quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc là, ça... bon, il y a plein de façons de se prouver à soi-même que nous sommes capables d'entendre, de voir, de sentir, de palper l'invisible. Et quand on prend connaissance de l'invisible, eh bien on se rend compte que tout ce que l'on croyait vide est mort. Est en fait super vivant et que tous nous croyons vivants à l'extérieur en fait est quasiment mort. Enfin, tout est inversé quoi. Alors, on en est où? Une question de Luc. Depuis quelques semaines, quand je vois dans un film par exemple un soldat mort, cela me fait souffrir comme si j'avais vécu cette situation. C'est pareil pour tout. Un animal qui souffre me renvoie à la souffrance sur cette terre, des amoureux qui se déchirent, etc. C'est plus qu'une émotion, c'est très profond. C'est comme si mon cœur était entouré de souffrances millénaires comme rattachées à mon karma. Je voulais savoir si ça correspondait à une phase de retournement ou dépliage du cube. Ce n'est pas très joyeux, mais en contrepartie, je ressens comme un lien qui se crée avec tout et plus de compassion. Eh bien, effectivement, c'est une phase, on va dire, du retournement. C'est-à-dire que tu vois ce qui est au-delà des choses. Et quand tu vois un soldat mort sur un écran, eh bien, ton esprit ne fait pas la différence. Ce qui veut bien dire que tu peux vivre tout à partir d'une illusion. Donc, même si le soldat, le vrai soldat qui était mort à côté, te tord les tripes, c'est parce que ça passe par tes perceptions, on va dire, toujours extérieures, et tu dis, ouais, il est là, il pisse le sang quand même, là, je peux pas faire semblant. Mais quand tu dis à l'écran, tu peux dire, ouais, mais bon, c'est de l'écran, c'est un acteur, il va se relever, puis après, il va aller bouffer son hamburger frit, donc il n'y a pas de souci. Oui, Mais n'empêche que pour ton cerveau, lui, il n'y a pas de différence. Et donc, quand on commence à devenir suffisamment sensible, on se rend compte qu'à ce moment-là, rien n'est innocent et rien n'est anodin. C'est-à-dire que la moindre parole prononcée, la moindre émotion que tu puisses vivre à travers un film, est une manipulation totale de ce que tu es. Et voilà en quoi Hollywood, le bois sacré, est en fait, d'une certaine manière, une pompe à égrégore maximale. Plus il y aura d'individus qui regarderont le même film, et plus ils alimenteront les archétypes de base qui permettent, on va dire, à une minorité de faire qu'il y ait des moutons. Donc on vous rabâche toujours, toujours les mêmes clichés, parce que ces clichés génèrent toujours les mêmes émotions chez l'être humain. Et il est tellement con qu'il leur demande. Vous voyez, faut pas y aller par quatre chemins. Donc, quand une demoiselle pense toujours au prince charmant et voit des films de prince charmant, elle entretient la notion de prince charmant. Le résultat, quand il y aura son véritable partenaire qui se pointera en face d'elle, elle ne reconnaîtra pas, parce qu'elle elle veut voir un prince charmant. Mais là, elle verra pas un prince charmant. Il y aura un mec qui va dire, ouais, bah, c'est lui, bon, allez, pff, dégage. Comprenez cela. Donc, c'est pour ça que plus vous allez avancer sur la voie, et moins vous lirez, et plus vous ferez attention à ce que vous lirez. De même, pour tout ce que vous regarderez, c'est sûr que la première de toutes les choses, c'est que vous commencerez à baigner la télé. Pour plus regarder de 20h, plus de news, plus rien de tout ça. Déjà, ça vous changera la vie. Mais après, certains bah, le font, mais tombent directement sur Internet. Et là, bah, ils vont regarder les actus sur Internet. Ils disent, oui, mais bah, moi, il faut que je me tienne au courant de ce qui se passe quand même. Et paf, ils se font avoir derrière. Alors, il y a une différence entre juste avoir une vision globale de ce qui se passe et écouter un type qui va déblatérer pendant une heure. Donc, avoir une petite idée, ça ne veut pas dire savoir ce qui se passe. Et en fait, dans la réalité, ceux qui élèveront le plus vite leur fréquence seront ceux qui seront le plus loin de tout ça. Parce que moins vous saurez ce qui se passe ailleurs, moins vous serez accroché par ce qui se passe ailleurs. Et moins vous serez accroché, et plus ça sera facile pour vous. Si par contre vous dites, ah oui, mais là, il y a eu encore un tremblement de terre, 3000 morts, 200 000 morts, oh là 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 là, et ça y est, hop, vous alimentez. Mais si vous n'avez pas que ça a eu lieu, vous en foutez. Et parce que, d'une certaine manière, vous n'êtes pas au courant, eh bien, vous n'allez pas utiliser votre pouvoir créateur contre vous et contre l'humanité. Ah ouais, mais alors, on ne va plus rien lire, on ne va plus rien faire. Sachez être dans la juste mesure de vos besoins. Mais sachez quand ça commence à devenir de trop. Voilà, donc c'est tout à fait normal, Luc, que plus tu avances et plus tu vas ressentir ce qui est. Que ça soit réel ou pas. Enfin, réel ou pas, je parle d'un écran lumineux ou d'une réalité. Enfin, que ce que tu penses être une réalité, parce que ce que tu penses être une réalité n'en est pas une véritablement. Mais ça reste sur un écran de projection, qui est autre, mais qui reste un écran de projection. De toute façon, dans de futurs articles, vous comprendrez cette histoire de cinéma, d'écran de projection, avec encore un petit peu plus d'acuité. Parce que bon, comme dirait l'autre, faut construire la fort à mesure gentiment. Imaginez que ça fait quand même un paquet de millénaires qu'on est enterré quand même dans des croyances pas possibles. Et ne pensez pas qu'en l'espace de un ou deux articles, vous allez tout comprendre et tout baigner d'un seul coup, parce que votre corps ne pourra pas suivre la musique. Donc d'une certaine manière, votre corps biologique vous empêche de progresser trop vite. Il est un frein, et heureusement, d'une certaine manière. Parce que si votre corps physique changeait à la vitesse de vos pensées, vous auriez plus du tout une forme humaine depuis très longtemps. Il suffit de regarder comment vous pensez ce que vous êtes, quelles sont des fois les pensées que vous avez par rapport à vous ou une partie de votre corps, et vous comprendriez instantanément qu'il est heureux qu'il ne change pas aussi vite que vos pensées. Alors, une question de Véronique. J'ai plusieurs amis, certains encore en pleine 3D et d'autres sur le chemin de l'ascension, qui m'ont confié leurs difficultés à gérer leur libido. Certains sont célibataires et d'autres sont en couple, mais avec une conjointe peu collaboratrice sur ce plan. Que conseilles-tu à un homme dans ce cas? Y a-t-il des exercices respiratoires ou énergétiques pour les libérer de cette pression physique? Comment peuvent-ils gérer leur frustration sexuelle? La masturbation les frustre encore plus par ailleurs. Merci pour eux et pour leur masculin qui cherche aussi la lumière. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les énergies sont là pour nous brasser. Or, on a l'énergie de Maman Eléa qui nous passe par les jambes, forcément. Donc, la sexualité appartient, on va dire grosso modo, à Maman Eléa. Hein, c'est-à-dire que c'est le moteur de la Terre. Premier chakra, deuxième chakra. Donc, le deuxième chakra, en termes vibratoires, c'est la sexualité. Mais comme c'est une vibration, eh bien, les outils sont au premier, comme dirait l'autre. La géométrie est au premier étage, pendant que la vibration est au deuxième étage. Mais c'est le moteur de la Terre. Et donc le moteur de la Terre, lui, va forcément être fortement dépendant, on va dire, des énergies envoyées par Maman Urantia. Il faut savoir que vos intestins, c'est un autre cerveau. C'est le cerveau du moteur de la Terre. Et c'est pour ça qu'il a les mêmes circonvolutions que le cerveau qui est dans le moteur du ciel, c'est-à-dire 5D, 6D. Donc, ils ont chacun leur moteur. Alors, c'est pour ça que dans les arts martiaux, on parle du chi, et tatati, et tatata, le hara et compagnie. Enfin bref, ils sont toujours dans le moteur de la Terre, et ils se disent, faut faire des arts martiaux pour être en paix, et en sécurité, et maîtriser. Mais le problème, c'est que dès que tu commences à les gratouiller un petit peu, ils te balancent deux coups de manchette, et t'es mort, quoi. Donc, je vois pas où est la maîtrise. Hein, parce que, théoriquement, si vraiment c'était ça, tous les gens qui font les arts martiaux devraient être des gentils, mais alors, total. Or, c'est pas le cas. Il y a toujours une excuse, un truc qui fait qu'arrive un moment, ils sont obligés de passer à l'acte. Donc, les arts martiaux peuvent être une maîtrise du corps, on veut dire d'une certaine manière, découvrir ses capacités, ses possibilités, mais n'est en aucun cas un chemin de paix. On n'apprend pas la paix en faisant des gestes de guerre, ou en entretenant la possibilité que quelqu'un vienne vous attaquer. Parce que si vous entretenez cette possibilité, elle se réalisera, puisque vous êtes un créateur incarné. Tôt ou tard. Alors, la libido. Eh bien, la libido, plus Maman va se réveiller, et plus ça va être effectivement un problème important. Parce que ce centre du moteur de la Terre se retrouve avec des énergies dont il n'a pas l'habitude. Donc la libido est poussée un maximum. Alors après, bien sûr, si on a une partenaire qui ne joue pas le jeu, on est mal. Bon, c'est pour ça qu'il existe des maisons closes, vous allez me dire. Mais oui, mais là, il faut avoir des sous. Donc, c'est pas réglé le problème. Et puis bon, on ne peut pas y aller tous les jours quand même. Donc, c'est un problème à régler. On est d'accord. Donc, la solution, c'est que il faut vous trouver une ou des copines, et puis c'est tout. Il y a des milliers de femmes qui aimeraient avoir des mecs qui s'occupent d'elles, mais elles n'en trouvent pas. Pourquoi? Elles attendent le prince charmant. Et puis, il y a des milliers de mecs qui se disent « Moi, j'ai vraiment envie, je voudrais vraiment faire des choses avec les dames, mais je peux pas parce qu'elles atteignent le prince charmant et je suis pas un prince charmant. » Alors, voilà. Voilà la misère du monde. Chacun attend, on va dire, des critères des autres. Ils disent « Oui, mais si elle fait pas tel tour de poitrine, c'est pas la peine. S'il n'y a pas ceci, c'est voilà. » Et puis, réciproquement pour les dames, « Ah oui, mais s'il fait pas le 1m80, moi, j'ai pas envie de coucher avec un nain. » Bref, je crois que c'est pas la peine que j'aille dans le détail, mais nous recevons à notre juste mesure. Voilà. Alors, il peut y avoir des moments difficiles, je le reconnais. Et en ce moment, ils vont être de plus en plus difficiles. Donc tous les gens qui passent de la 3D à la 4D commencent à sentir qu'ils ont une libido qui commence à se réveiller sérieux, autant chez les dames que chez les messieurs. Et puis arrivé en 5D, les choses sont un petit peu différentes. Mais en attendant, tout passage de la 4D, elle est délicate. Délicate, très délicate. Mais ça fait partie, on va dire malheureusement, du jeu. Nettoyage du corps, une question d'Isabelle. que peux-tu nous dire sur les amygdales? Depuis quelque temps, ma petite voix me dit que c'est un organe important. Sont-elles liées à un chakra particulier? Depuis le dernier solstice d'hiver, j'y ai de fréquentes inflammations et quand je pose des questions à mes guides sur ce sujet, ils me répondent qu'il s'agit d'un travail de nettoyage et je perçois une notion très floue de chakra. Bien. Alors, si vous écoutez la science officielle, à une certaine époque, dès que vous aviez un problème avec les amygdales, la première chose qu'on faisait, c'était vous les retirer. Donc, pourquoi cette technique? Parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre. Ils disent, de toute façon, ça ne sert à rien, donc on les vire. Donc, vous voyez, c'était très simple. Or, au fil du temps, ils se sont rendus compte que quand même, ceux à qui on enlevait les amygdales avaient un problème immunitaire. Un gros problème immunitaire. Parce que, en fait, les amygdales participent lourdement à votre système immunitaire, c'est-à-dire à votre capacité, à la capacité de votre corps à réagir à toutes les intrusions, on va dire, pas très bonnes pour lui. Donc, quand on a des inflammations à cet endroit-là, ça veut dire qu'effectivement, vos amygdales sont mises à rude épreuve. Comme un foie est mis à rude épreuve quand on boit un peu trop d'alcool. Donc ça veut dire que c'est pour ça que tes guides te disent qu'il s'agit d'un travail de nettoyage. En clair, eh bien, tes amygdales bossent à 300% et ils peinent lourdement à éliminer toute la crasse qu'il y a en toi. Donc, savoir qu'ils sont reliés à un chakra ou non n'est pas le problème en soi, parce que si tu savais, les gens pensent qu'il y a 7 chakras. En fait, il y en a des centaines, mais il y en a des plus gros et des plus petits. Hein, c'est comme dans la galaxie, il y a des planètes et il y a des soleils qui n'ont aucun rapport en termes de taille entre eux. Hein, il suffit d'aller taper astronomie ou machin comme ça sur internet et vous allez voir que la Terre, elle est ridicule par rapport à Jupiter. Mais Jupiter est ridicule par rapport au Soleil, mais notre Soleil est absolument ridicule par rapport à d'autres soleils. Donc tout est proportionnel, il y a des petits, des moyens, des minuscules, des très gros, des énormes chakras. Donc, pour répondre à la question, est-ce que mon diaphragme est relié à un chakra? La réponse est forcément oui. Parce que comment veux-tu qu'il soit alimenté? Un chakra, c'est un soleil. C'est-à-dire, c'est comme un vortex. C'est un vortex, en fait, qui fait, en fait, tourner l'énergie sur elle-même. Donc, il y a une partie entrante, une partie sortante, et c'est comme un moteur. Donc, forcément, tout organe qu'il y a dans ton corps est associé à ces vortex, donc à des soleils et donc à des chakras. Donc c'est pas la peine de dire, c'est pas la peine de demander est-ce que tel truc est relié à un chakra. Tout est relié, parce que comment voulez-vous que votre corps fonctionne s'il n'avait pas des mini sources d'énergie partout? Alors il y en a qui sont plus grosses que d'autres, on est d'accord, c'est comme les routes. Vous avez les chemins, vous avez les petites départementales, vous avez de la nationale et vous avez de l'autoroute. Donc voilà, c'est juste ça, c'est aussi comme les villes, il y a le petit patelin, il y a le moyen patelin, il y a un patelin normal, et puis après vous avez la super agglomération, puis après la super agglomération. Alors peut-on comparer le petit village d'une centaine d'habitants avec Paris intramuros? La question est non. Alors forcément, les voies de circulation ne sont pas les mêmes. Autant dans le petit village d'une centaine de personnes, vous avez à peine de quoi croiser, on va dire, 2 voitures dans la rue, et encore quand c'est possible. Alors que pour aller à Paris, si vous ne prenez pas l'autoroute, vous ne prenez que de la petite route de merde, c'est sûr que vous allez avoir des ennuis, quoi. Donc, tout est proportionnel. Sortir du jeu, une question de Bennett. Si vraiment on veut changer la vision de son propre monde, doit-on continuer à alimenter le système dont les politiques dépendent et profitent, et ainsi continuer à payer tranquillement nos impôts, au détriment de soi? Et cela nous permet de respecter, et cela nous permet de rouspéter à tout va. Ou nous continuons à avoir peur de ce système, bien évidemment, à cause des représailles et sanctions, et donc nous payons. Ce cas de figure m'interpelle, car il y a de plus en plus de gens qui, comme moi, n'ont de l'argent que pour payer les factures courantes, EDF, téléphone, chauffage, loyer, nourriture, et rien à côté. Ce qui, en soi, n'est pas un manque du tout. En tout cas, pas pour moi. Mais n'ont pas de supplément à donner à l'État. Alors, Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que nous sommes dans un système. Et ce système a pour objectif de pomper. Parce que ce système a besoin d'énergie. Donc si l'énergie n'arrive pas au système, ce système va dépérir. En clair, eh bien, une institution, comme la France par exemple, une administration, ne peut vivre que si elle prélève. Parce que si elle ne prélève pas, elle ne va pas pouvoir déjà assurer, je dirais, le minima syndical. Or, qu'est-ce qu'un système politique? Enfin, un système politique, enfin, on va dire administratif et compagnie. C'est de dire, voilà, nous allons prendre proportionnellement à chacun de telle manière qu'on puisse mettre en œuvre des infrastructures pour l'ensemble. En clair, eh bien, si on demandait à chacun de payer la route qui mène à sa baraque, il aurait du mal à payer déjà sa baraque, hein, parce que ça coûte la peau des fesses. Donc, il y a derrière, on va dire, cette institution, une notion collective et de redistribution dite des richesses. Parce que, en effet, quand vous prenez une route pour aller dans un village ici, XYZ, vous vous rendez compte qu'il y a des petites maisons de rien du tout qui peinent à avoir déjà un toit correct, et puis vous allez trouver quelques résidences, voire châteaux, voilà. Donc, bah, vous allez me dire, la route ne coûte pas plus cher pour aller au château que pour aller dans la bicoque qui va bientôt s'écrouler. Donc, il y a une redistribution des richesses, c'est-à-dire que théoriquement, je dis théoriquement, celui qui a une grosse propriété, bah, sa valeur locative, etc., enfin, ses impôts locaux vont être en conséquence des revenus qu'il a, et théoriquement, celui qui a à peine déjà de quoi réparer son toit devrait aussi avoir des impôts en conséquence, c'est-à-dire payer pas grand-chose, voire pas du tout. Donc ça s'appelle une redistribution des richesses. Donc ça, c'était un système collectif qui faisait que l'individu, surtout le plus mal loti, pouvait quand même espérer avoir un minima de confort. Je dis minima. Hein. Il s'avère que ceci, maintenant, a été complètement, on va dire, corrompu, dans le sens où les personnes qui gèrent ce système ont fait deux choses. C'est-à-dire que d'abord, ils ont pensé à leur gueule et se sont dit « moi, député, c'est tant par mois ». Parce que, bon, après tout, il n'y a que 24 heures par jour, et puis, bah oui, c'est un boulot comme un autre. Hein. Donc, plus je fais, peut faire casquier, mieux ça vaut. Donc ça, ça veut dire que déjà, les politiques sont des individus qui, par principe, sous le couvert d'aider son prochain, commencent à se servir soi-même. C'est point. Quitte à raconter que des conneries. D'ailleurs, dites-moi, un politique qui ne raconte pas de conneries, et là, ça va être dur à trouver. Ensuite, le deuxième point, c'est que ils se sont permis de pouvoir, on va dire, pour des raisons électorales, permis d'endetter, on va dire, la nation, afin de se faire réélire. Donc quelqu'un qui dit « moi, je veux quand même continuer à avoir ma paye parce que je suis maire, ceci ou cela, ou député ou quoi que ce soit, je vous promets de vous construire des routes, des autoroutes, de vous mettre des bons ponts, et tout ça parce que j'ai envie d'être réélu. En attendant, je prends des crédits à plus savoir quoi en foutre, hein, des trucs complètement insensés, et qui fait que, grosso modo, on endette la nation pour tout simplement poursuivre, avoir sa paye, voire plus. » En clair, eh bien, quand la nation n'arrive plus à payer ses dettes, on fait quoi? Ben, on prélève. Et donc, on en est arrivé au stade aujourd'hui à ne payer que des intérêts de la dette et en mettant des impôts de plus en plus lourds, de plus en plus lourds, de plus en plus lourds et de plus en plus lourds, parce que tout simplement, ça a été basé sur le pouvoir de certains individus à vouloir garder certains avantages. En clair, ce qui était prévu pour le collectif et pour aider, on va dire, le commun des mortels, s'est retrouvé, en fait, corrompu par des gens qui disent « moi d'abord, on verra ensuite ». Alors, sachant que quand vous allez perdre des élections parce que vous n'avez pas réussi à faire tout ce que vous aviez voulu faire, hein, eh bien, vous dites « c'est pas grave, les autres, ils vont hériter du bébé, moi je m'en fous, tranquille, en attendant, j'aurais payé ma villa, j'aurais payé tout ça ». J'aurais planqué un certain nombre de sous dans des banques ici, XYZ, à droite, à gauche, et on ne viendra pas me faire chier, donc je pourrais continuer. Voilà. Donc, quand on passe d'un parti, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à gauche, un coup à droite, eh bien, chacun se renvoie le bébé en disant, bah, de toute façon, on amplifie le problème, mais on ne pourra pas le résoudre, puisque des deux côtés, ils font la même chose. Alors, pour répondre à ta question, Bennett, ben, c'est simple. On est dans un système complètement pourri qui va sucer le peuple jusqu'à la moelle de la moelle de la moelle de la moelle de la moelle, jusqu'à temps que ce peuple, se la joue 1789, c'est dire non, moi je veux plus, je peux plus. Voilà. Et donc il va falloir s'y attendre probablement cette année. Hein. Bon, ça a commencé fin de l'année dernière, mais c'est pas suffisant encore. Là, ils sont revenus un petit peu dans leurs ornières. Les bonnets rouges se sont éteints, pas de problème. Mais je pense qu'en 2014, quand ça va se lever, ça va se lever. Parce qu'en France, ils font pas à moitié. Vous savez, il y a eu beaucoup de gouvernements à travers les différentes nations, mais la France a ouvert la voie avec 1789. Les Anglais n'ont jamais été foutus de le faire, encore moins les Allemands. Parlons pas des Espagnols, ni des Belges, ni des Italiens. C'est-à-dire, ils ont toujours une royauté, ils ont toujours un truc, ils ont toujours. Bon, la France, nous, on a quand même foutu la royauté à la porte. Mais n'empêche qu'ils ont été substitués par d'autres qui se disent démocratiques, mais qui jouent à peu près pratiquement dans la même cour. Donc, quand les Français en auront marre de se faire plumer, mais vraiment plumer, ils se lèveront. Alors, pour les gens qui sont en 4D+, voire qui commencent à mettre un pied en 5D, ils auront compris que c'est pas l'objectif de se rebeller et de tout casser, parce que ça a coûté des sous quand même. Donc, c'est une idiotie de casser ce qui était construit en plus avec vos sous. Donc, ils se retirent du système. Ils se retirent du système gentiment. Donc, en vivant simplement, on va dire qu'ils ont pratiquement plus de revenus. Et comme ils ont pratiquement plus de revenus, théoriquement, ils ne devraient plus payer d'impôts. Alors, bien dire, ils sont là-bas, au gouvernement, ils sont en train de faire très fort parce qu'ils essayent de plumer partout, même ceux qui ont plus de sous. Donc là, ils vont se mettre vraiment tout le monde à dos. Donc ça va vraiment péter. Mais globalement, c'est vous payez plus d'impôts, vous êtes en dessous la barre. Voilà. Donc, vous achetez de moins en moins, vous faites de plus en plus de troc, vous faites tout votre possible pour ne pas alimenter le système. Et donc, j'ai appris récemment, d'ailleurs, ce qui m'a fait plaisir, parce que ça fait 30 ans que j'attends ça, on dit, ah voilà, ça y est, en France, il y a une loi qui est votée, qu'à partir du 1er mai, je crois, un truc comme ça, enfin, je sais plus, enfin, c'est c'est dans pas longtemps, eh bien, le vote blanc va être comptabilisé. Vous imaginez? On va dire, attendez, là on a un problème. Comment ça se fait que jusqu'à maintenant, en 2014, les bulletins blancs étaient considérés comme nuls? C'est-à-dire que le mec qui se déplace pour aller voter dise « Je suis d'accord avec aucun des individus qui sont présents sur les listes. » Et je le dis, je le montre, je suis un citoyen, je vote. Soit considéré au même titre que celui qui dit j'en ai rien à battre et je vais aller à la pêche. Parce que le système faisait en sorte que vous étiez obligé de voter soit à droite, soit à gauche, soit à l'extrême gauche, soit à l'extrême droite, et puis au pire des cas, au centre. Mais d'une façon, vous votiez pour un loup, pour un menteur, pour un politicien, pour quelqu'un qui joue le système. Vous n'aviez pas le choix. Et puis, là, ils ont un gros problème. C'est que. Comme le système est en train de se casser la figure, eh bien, ils savent dorénavant, hein, et c'est surtout pour les Européennes, ils savent que les gens, pour protester, vont virer quasiment à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. En d'autres termes, hein, comme ils disent, on va aller, pour éviter d'aller vers la couleur bleu marine, eh bien, on va accepter les votes blancs ou nuls. Donc, comme ça, en faisant rentrer dans la balance, les votes blancs ou nuls, eh bien, on va rééquilibrer un petit peu les choses. Et deuxièmement, ça évitera aux gens qui ne sont pas d'accord avec nous d'aller voter pour quelqu'un d'autre du système. Donc, une personne qui dit, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce que font les socialos aujourd'hui, on me laisse pas le choix. Donc, je vais aller voter pour l'extrême droite ou l'extrême gauche, puisque de toute façon, je n'ai pas le choix. C'est parce que si je vote nul ou blanc, ça ne sera pas pris en compte. Donc, je vais voter pour l'extrême. Et comme les socialos, ils ne sont pas bien du tout, pour éviter un raz-de-marée d'extrême droite ou d'extrême gauche, eh bien, d'un seul coup, ça y est, on va considérer que le bulletin de vote blanc ou nul est considéré, ou les abstentions, est considéré dans les calculs. c'est pour éviter tout simplement que l'extrême droite ou l'extrême gauche fasse des ravages aux prochaines élections de cette année 2014. Donc vous voyez que c'est seulement quand ils sont acculés, mais vraiment acculés au mur, que ce qui était logique va pouvoir venir. Donc moi, ça fait 30 ans que je ne vote pas. Pourquoi ? J'ai dit, mais on ne peut pas prendre en compte ce que je pense, puisque je ne suis ni d'accord avec cela, ni avec cela. Donc laissez-moi au moins un bulletin blanc. Et donc si le bulletin blanc est reconnu et qu'on découvre qu'il y a 40% des Français qui votent blanc, on va se dire, il y a peut-être un politicien, un nouveau genre, qui va peut-être répondre aux demandes du peuple. Mais ça, ce n'était pas possible avant. Donc les jeux étaient truqués. Donc quand on parle de démocratie, derrière, regardez comment les États-Unis imposent la démocratie à des pays, dans le Golfe par exemple. Bah, c'est une catastrophe totale. Donc la démocratie, celle qui est, je dirais, actuellement en place, est une médiocratie. C'est pire que tout ce qu'il y avait avant, d'une certaine manière. Mais on vous fait croire tout le contraire. Bref, c'est du racket organisé. Et pour l'instant, tous vos sous sont utilisés pour sauver des banquiers qui sont en faillite totale. Et les banquiers, ce sont tous ceux qui vous ont plumé. Voilà. En mettant des intérêts. Ou en, voilà, en prêtant de l'argent qui n'existait pas, etc., etc., etc. Donc on essaye de sauver le système, mais de toute façon, au bout du compte, c'est toujours la même personne qui paye. Toujours. Toujours. Bien. Voilà, donc ça, ces suppléments, comme tu dis, Bennett, à donner à l'État, eh bien, si tu fais tout ton possible, ben, faut pas les donner, c'est tout. Or, aujourd'hui, hein, il y a quelqu'un qui me disait ça, il me dit, ouais, mais moi, je vais pas pouvoir continuer à payer mon crédit sur la maison, alors il faut que je retrouve un boulot, etc. Et la réponse a été, on n'est pas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils se sont rendus compte que les banques faisaient exprès pour virer les gens afin de saisir le bien immobilier et le revendre sur le marché. Or, le problème, comme ils l'ont tous fait, eh bien, le prix des maisons a descendu, il y avait de moins en moins d'acheteurs. Parce que, bah, d'un seul coup, il y avait trop de maisons qui étaient en vente. Donc, en fait, en voulant piquer les baraques des gens, eh bien, ils se sont auto-suicidés, ils ont suicidé le marché, en fait, d'une certaine manière. Et donc, bah, ce que ça a fait, c'est que déjà, dans un premier temps, les baraques, comme c'est des baraques qui ne sont pas montées en moellon, en pierre dure comme chez nous, c'est que des baraques en bois principalement, bah, ça a pourri puisqu'il n'y avait personne qui les entretenait. Donc, bah, ce qui valait quelque chose valait de moins en moins. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'ils ont découvert, c'est qu'en foutant les gens à la porte, les gens n'arrivant plus, entre guillemets, à vivre décemment, bah, c'était plus des consommateurs. Donc, ils ont, bah, quelque part, ils ont vécu à la dure. Et comme ils ont vécu à la dure, bah, ils ont consommé moins. Et consommant moins, en fait, ça a fait que rabattre encore plus, je veux dire, les capacités consommatrices, c'est-à-dire l'argent qui rentre dans les banques et tout ce qui s'ensuit du commerce. En clair, les banquiers, en voulant choper des baraques, et ça, c'est un procès qui dure depuis assez longtemps, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait des avis d'expulsion qui n'avaient pas lieu d'être du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire, ils ont carrément... Et c'est américain. Alors, en France, on n'est pas dans le même principe, quand même, parce que si ça se faisait, je peux vous dire que là, chacun sort le fusil de chasse. Ça, c'est clair. Donc, en Europe, on est quand même un peu moins con que les ricains, de ce côté-là, au moins. Et donc, ce que ça fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont incapables de pouvoir payer leur loyer ou de payer les remboursements de crédit. Alors, que vont faire les banquiers? Ils vont vous envoyer des huissiers, il n'y a pas de problème. Les huissiers, c'est plus quoi en foutre tellement qu'ils ont de demandes d'intervention. Donc, résultat, aujourd'hui, les huissiers sont incapables de pouvoir suivre la demande les demandes, pas d'expulsion, mais de paiement des banquiers, premièrement. Deuxièmement, si les gens n'arrivent plus à payer, c'est parce qu'ils ont plus un radis. Et s'ils ont plus un radis, vous pouvez balancer une lettre commandée tous les jours dans la boîte aux lettres, ça ne changera rien. J'ai connu cette situation, donc je sais très bien qu'un huissier, ben, arrive à un moment, il sait très bien que vous ne pourrez jamais verser ne serait-ce que le dixième de ce qu'il demande. Alors ils peuvent mettre toutes les charges qu'ils veulent et ils savent que vous ne pourrez pas rembourser. Donc ils ne sont pas idiots. Premièrement. Deuxièmement, politiquement, c'est impossible en France de dire « on va vous foutre dehors ». Alors quand c'est, une personne sur 1000, bon, ça peut se faire en douce, etc. Mais si c'est 100 personnes sur 1000, Si c'est 200 personnes sur 1000, alors là, on ne peut plus, là. Parce que, quand même, l'expérience a apporté que si vous foutez les gens à la rue, eh ben, ils vont aller dormir où ? Dans les campings, ils sont fermés l'hiver. Ils vont dormir où ? Sous les ponts. Il y en a déjà pas mal, hein. Il y a déjà tous les... Enfin, on va dire... Tous les gens de la communauté européenne qui sont très pauvres, ils sont déjà sous les ponts. Ils squattent déjà tout, donc... Et puis, bah, si les gens ils veulent vivre, ils vont faire quoi ? Bah, ils vont commencer à piquer les fils de cuivre, ils vont commencer à dégrader tout. Donc, on sait très bien que si on fout les gens à la porte en nombre, on va recevoir plus d'emmerdes que si on les avait laissés chez eux. Alors, je dis ça concrètement, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans la position d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. C'est-à-dire que si vous avez un défaut de paiement, croyez-moi, votre banquier va sortir informatiquement les grosses armes, mais derrière... Il ne peut rien faire. Parce que lui-même n'a même pas les moyens puisqu'il est en faillite. Quand vous voyez qu'il y a des tribunaux, comme je crois c'est du côté de la Réunion, qui n'ont pas payé les avocats commis à la défense, vous savez, de base, depuis quasiment 2 ans et demi ou 3 ans, qu'ils n'ont pas un radis pour payer, et que les avocats à la défense, comme on dit, disent, nous c'est fini, hein. On ne bosse plus, on arrête, hein. Puisque ça fait 2 ans et demi qu'on bosse et qu'on n'est pas payé. On est dans un département français, hein, je vous signale. Donc, quand on en arrive à balancer aux gendarmes des pistolets avec des percuteurs en plastique, c'est qu'on est déjà bien bas. Donc, aujourd'hui, si vous n'arrivez plus à payer votre crédit, que ce soit pour la baraque ou pour autre chose, vous inquiétez pas, on ne va pas vous virer. Parce que c'est impossible qu'on vous vire. Et donc, c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte. Hein? Donc, bien sûr, ce n'est pas le moment de dire « Ah, je vais prendre un billet d'avion pour aller à Tahiti ou pour aller à Hawaï parce que j'ai envie de me changer d'air. » Non. Ayez le profil bas et vous allez voir que plus vous l'avez bas, et moins ils peuvent faire quelque chose contre vous. Donc, moi, j'ai connu cette situation pendant plusieurs années successives. Je peux vous dire, vous ne pouvez rien me prendre. Mais quand je dis rien, c'était rien. Parce que j'avais vraiment rien. Mais rien, même pas une adresse. Donc, ils pouvaient envoyer tous les courriers qu'ils voulaient. De toute façon, ils ne savaient pas où j'étais. Ils étaient emmerdés à fond. Puis après, à la fin, ils ont dit, si vous pouviez payer la moitié cash, l'autre moitié, on vous en fait cadeau. Donc, et j'aurais pu laisser durer comme ça, ad aeternam. Ad aeternam. Quand t'as rien, ils ne peuvent rien te prendre. Donc c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans un système qui peut te dépouiller, parce que quand tu n'as plus rien, tu n'as plus rien. Donc le passage en 5D6D va être un passage dans le chat de l'aiguille, et c'est pour ça qu'un certain nombre de personnes ont du mal à comprendre que l'élévation de fréquence rime aussi avec retour à l'humilité, retour avec le minima syndical. Fini toutes les extravagances, fini tous les trucs. Ah, j'ai vu là, tiens, encore aujourd'hui, un truc. Ah ouais, un Français, il a fait 11 000 bornes pour aller du côté de Sochi pour aller récupérer 7 chiens pour éviter l'abattage. D'accord. Maintenant, faites le bilan. Un billet d'avion aller-retour, donc kérosène, enfin tout le bordel, pour 7 chiens qui sont à l'autre bout, qui de toute façon, quand il arrivera là, il aura d'autres soucis parce qu'ils ne sont pas immatriculés, ils n'ont pas certainement tous les trucs parce que c'est des chiens qui étaient à la dérive et compagnie. C'est-à-dire, le véritable problème est pourquoi y a-t-il des Jeux Olympiques encore ? Parce qu'il y a de la compétition. Donc, en 5D6D, la compétition n'existera plus. Donc, les Jeux Olympiques aussi. C'est juste en passant comme ça. Juste pour vous dire que si certains peuvent soulever le courage de l'individu qui dit « Voilà, j'ai dépensé une fortune pour aller sauver 7 chiens », s'il avait mis déjà cet argent, je dirais localement, il en aurait peut-être sauvé 25 ici en France. Enfin, sauvé, entre guillemets. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont, comme dirait l'autre, de la compassion, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas franchement de la jugeote. Mais bon, c'est pas grave. Vaut mieux sauver 7 chiens que donner à bouffer à 5 personnes qui crèvent la dalle dans la rue. Les chiens, des fois, ça vaut beaucoup plus que les humains. C'est bête à dire, mais c'est un peu mon interprétation des faits aujourd'hui.